du premier étage. Seule la fréquentation de la piscine a apporté un peu de lumière à cette existence. Robert s'est montré un compagnon attentif, mais sa fantaisie n'a pas suffi à rompre la monotonie de la vie provinciale. Le caractère enfantin de son mari a commencé à lui peser. Son obéissance aveugle au désir de ses parents lui est devenue insupportable. La soumission de Robert leur avait valu ce départ pour Lyon, et elle ne pouvait pardonner à ses beaux-parents de les avoir ainsi exilés. Martin lui a manqué dans cette période de menace, et elle aurait tout donné pour retrouver sa mère, l'atelier de la rue Berthe et l'animation de la butte Montmartre. De retour à Paris, elle renoue avec sa famille. Elle apprécie les dîners du dimanche soir chez Georges et Esther. Sa belle-sœur est devenue une amie, une confidente. Elle a retrouvé avec bonheur Anna, la sœur de Robert, a fait la connaissance de son mari et de leur fils Simon, ce petit garçon autoritaire et charmeur, si semblable à son père. Elle ne peut se défendre d'une attirance pour Maxime, dont l'apparence l'a séduite dès leur première rencontre. Mais le regard appuyé qu'il lui a adressé le jour même de son mariage l'a glacée. Elle le devine habitué aux conquêtes faciles, sûr de son charme, un de ces hommes pour qui les femmes sont des proies. Robert, fier d'avoir épousé une femme sur laquelle on se retourne, n'a cessé de manifester pour elle une gourmandise de petit garçon. Au début de leur vie lyonnaise, ils descendaient parfois au magasin le soir venu et s'aimaient sur l'un des lits proposés à la vente. Robert faisait son choix, rustique, grand siècle ou contemporain. Tous les styles de chambre à coucher étaient proposés dans le hall d'exposition, promesses de plaisirs différents. Les stores des vitrines baissées pour la nuit laissaient filtrer la lueur des réverbères et serrée contre son mari, Tania sursautait à chaque claquement de talons dans la rue. Maxime occupe ses pensées plus qu'elle ne le voudrait. Elle a beau lutter, son image la poursuit, image troublante d'un homme qu'elle n'aime pas. À chaque fois qu'elle le retrouve en compagnie d'Anna et de Simon, elle repense à son regard. En toute autre circonstance, elle l'aurait considéré comme un simple hommage. Mais le jour de son mariage, elle n'en a rien dit à Robert, ni à Esther. Elle s'en veut de ce silence, comme s'il scellait un pacte entre Maxime et elle. Cet homme qu'elle pourrait mépriser, mais qu'elle désire. Pour la première fois, elle éprouve une attirance qui ne s'accompagne ni d'estime ni de tendresse. Des visions trop précises l'assaillent, le râle de son cou tranchant sur la blancheur de sa chemise, la ligne de ses épaules, les veines saillantes de ses avant-bras. Elle se laisse aller à imaginer son odeur, le poids de son corps, son sexe, les muscles de ses fesses. Elle a toujours mené le jeu avec Robert, riant de son impatience, jouant avec son désir. Par Maxime, elle se sent déjà dominée. Une sensation inconnue, une tension éprouvante. Pour s'en défaire, elle renoue avec le dessin. Elle ouvre de nouveau ses carnets de croquis et, page après page, prend possession de ce corps, en souligne les contours, en dégage les lignes de force. Le résultat la surprend. Tout le contraire des silhouettes fluides qu'elle proposait chaque semaine au journal. Grâce à Maxime, elle se découvre un style, une vigueur dans le trait qu'elle ne se connaissait pas. Cette activité l'apaise. Elle s'isole dans sa chambre de longues heures, le crayon à la main, puis comme un enfant coupable, elle cache ses esquisses au fond d'un tiroir. Au début de l'été s'ouvre une perspective nouvelle. Le magasin de Lyon est devenu une charge inutile. Le risque d'une spoliation se précise. Un acheteur s'est présenté. Pourrait-elle se charger de cette mission, le rencontrer et discuter avec lui des conditions? Sa belle-mère, trop éprouvée par le départ de son fils, ne se sent pas la force d'entreprendre le voyage. Un de leurs amis qui travaille à la préfecture pourrait lui procurer les papiers nécessaires. Elle reprendrait son nom de jeune fille à la consonance anglaise. Tania hésite. Robert aurait obéi à sa mère sans discuter, mais elle veut prendre le temps de réfléchir. Une idée la décide. Si les membres de la famille mettent leur projet à exécution et se réfugient dans l'Indre, elle pourrait les y rejoindre une fois ses affaires réglées. Elle vivrait cette période difficile près de ceux qu'elle aime. Elle partagerait la vie d'Anna et de Simon. Elle se rapprocherait d'Esther. Elle verrait Maxime tous les jours. La décision est prise. Louise a pu joindre sa cousine. Celle-ci lui a communiqué l'adresse d'un colonel à la retraite qui vit avec sa fille. Elle pourra les accueillir dans sa propriété des bords de la Creuse. Georges et Maxime vont franchir la ligne en premier et s'établir à Saint-Gaultier. Esther, Anna, Louise et Simon les rejoindront aussitôt que possible. Joseph ne veut pas tenter l'aventure. Franchir de nouveau une frontière lui paraît insurmontable. Il ira vivre à Malakoff chez Élise et Marcel. Trouver un passeur n'a pas été aussi difficile qu'il le craignait. Les amis d'Élise leur ont fourni une adresse. L'homme, rencontré dans un café de Belleville, inspire confiance. Il a franchi la ligne à plusieurs reprises et leur assure une totale sécurité. Ils ont rendez-vous avec lui dans un village au sud de Montoire. Marcel les y déposera. Ils connaissent les conditions. Une somme coquette à verser, un minimum de bagages, les économies cousues dans la doublure de la veste, des faux papiers. Tout se passe comme convenu. Une date, une heure, le temps d'une boisson dans l'arrière-salle d'un café, puis une marche sous la lune, dans le bruissement d'une campagne inconnue. La vision du poste de garde en ombre chinoise sur le ciel étoilé, l'angoisse du passage, et enfin la liberté, la poignée de main de l'homme qui s'enfonce de nouveau dans l'obscurité et les abandonne à proximité d'un village endormi. L'attente du petit matin sur la paille d'une grange et le trajet en autocar jusqu'à Châteauroux. Enfin, le coup de téléphone au colonel qui vient les chercher dans sa vieille traction et les conduit chez lui. Thérèse, sa fille, leur fait les honneurs de la maison. Ils sont libres, le temps de prendre leur repère et ils pourront faire signe aux femmes. Juchée sur un escarpement qui domine la Creuse, la petite ville est blottie autour de son église romane. Elle précipite ses venelles en pente raide vers les berges recouvertes de hautes herbes. Après avoir franchi les piles d'un pont dont les trois arches reflétées par le courant dessinent des cercles parfaits, la rivière s'engouffre sous l'usine hydroélectrique qui transforme ses eaux grises en lumière. Les rues du centre de l'agglomération alignent de modestes maisons qui ne dépassent pas un étage et, à la périphérie, de chaque côté des berges, quelques propriétés imposantes règnent sur des parcs ombragés. Celle du colonel trône au milieu d'arbres centenaires. Elle est bordée d'un muret percé d'une porte métallique qui donne accès aux berges. Leur hôte habite le rez-de-chaussée avec sa fille. Au premier étage, quatre chambres sont à leur disposition. Maxime et Georges choisissent les plus spacieuses, qu'ils occuperont avec Anna et Esther. Louise et Simon se partageront les deux autres. Tout leur a paru si facile. Ils ne mesurent pas les risques qu'ils ont courus. Sur les conseils de Thérèse, Maxime prend contact avec l'école du village pour proposer ses services et participer à l'éducation sportive des enfants. Georges pourrait entretenir les jardins et renouer avec la pêche pour approvisionner Thérèse avec ses poissons de rivière qui agrémenteraient l'ordinaire. À 50 ans passés, Thérèse, l'institutrice du village, vit dans l'ombre du seul homme de sa vie, son père. Elle dirige la maison avec autorité, veille sur le régime du colonel en gouvernante inflexible. Cette femme sans homme se méfie de Maxime. Mais le séducteur finit par l'apprivoiser. Sensible à son charme, elle le lui témoigne par de multiples attentions. Elle est à sa fenêtre lorsqu'il fait sa gymnastique matinale, torse nu sur la pelouse. Elle le contemple, bouleversée, et confie ses émois à son journal intime. Anna s'occupe du magasin de la rue du Bourg-l'Abbé, aidée de Joseph. Esther est venue la rejoindre. Louise leur prête main forte les jours d'affluence. Sa clientèle s'est raréfiée. Elle ne reçoit plus que ses patients les plus fidèles et préfère ne pas savoir pourquoi les autres ne font plus appel à ses services. Les trois femmes s'épaulent, se confient, dînent ensemble. Elles ont reçu un premier courrier des hommes qui leur chantent les louanges de Saint-Gauthier et promettent d'écrire bientôt pour leur donner le feu vert. Simon règne sur l'assemblée. Il s'accroche à cette mère qui n'a plus que lui. Anna se sent si seule dans l'appartement de l'avenue Gambetta qu'elle ne trouve pas le courage d'interdire son grand lit glacé à son fils. Il s'installe à la place de son père, la tête sur son oreiller, son chien de peluche serré contre sa poitrine. Chaque soir, le petit homme redevient un enfant craintif, effrayé par les ombres de sa chambre. Anna le regarde s'endormir, émue par son application à trouver le sommeil. Elle reconnaît Maxime dans ses sourcils froncés, dans ses poings serrés. Cet homme est toute sa vie, elle en est plus sûre que jamais. Dans quelques jours, elle retrouvera sa chaleur. Elle partagera de nouveau ses nuits. Elle, qui accorde si facilement sa confiance, distribue sans compter son affection, se sent coupable de ressentir comme une menace la présence de sa belle-sœur. Depuis cet après-midi au stade, son cœur est toujours en alerte. Elle admire Tania, mais cette force vive, cette beauté en liberté représentent un véritable danger. et elle ne peut s'empêcher de se réjouir.